Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle émission. Soyez toutes et tous les bienvenus dans la Tectonique du Savoir, saison 3, épisode 1. Une lecture, une rencontre, un nouveau savoir peut avoir un effet incroyable dans une vie. Cet effet peut même se transformer en mouvement tectonique, tout détruire pour tout reconstruire. Un peu violent, me direz-vous ? Certes, je vous l'accorde. C'est dans cet esprit que j'ai conçu il y a 3 ans cette émission dédiée au savoir scientifique, mais pas uniquement, et vous allez encore le voir une fois au cours de cette émission, apprendre et comprendre en compagnie d'invités professionnels sympathiques, passionnés et surtout passionnantes. Voilà quelques ingrédients de la tectonique du savoir. Le thème de cette nouvelle émission est le dernier théorème de Fermat, ou le second théorème de Fermat. Bref, le théorème de Fermat, Wiles. Et pour m'accompagner au cours de cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'être accompagné par une jeune femme professionnelle, passionnée, extrêmement sympathique et passionnante. Je vous présente Agnès Rigny.
Bonjour Eric.
Bonjour Agnès. Alors, comme le veut la coutume, j'aime bien ce terme, sachant que je n'ai que cette émission, mais on va dire qu'on est dans une coutume. Je te laisse te présenter. Qui es-tu, Agnès?
Bon, alors je vais essayer de faire court. Déjà, j'ai étudié pas mal les maths dans ma vie et je les ai enseignées. Mais c'est pas le seul sujet qui m'intéresse. Je m'intéresse aussi beaucoup à la créativité. Je m'intéresse aux gens, surtout aux gens en fait. Et dans la deuxième partie de ma vie professionnelle, je suis devenue coach pour accompagner les gens dans, disons que pour trouver le sens de leur vie. Voilà, c'est un peu pompeux, mais c'est un peu ça qui m'intéresse. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les gens font pour vivre, en fait. Et du coup, quel lien avec les mathématiques ? Ben moi, je m'intéresse aux gens qui font des mathématiques, en quoi ça les aide à vivre, en quoi ça leur complique la vie. Et je m'intéresse aussi aux histoires, aux anecdotes, voilà, tout ce qui fait chair, en fait. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Alors, je rassure les auditeurs, ce ne sera pas une émission de mathématiques, mais ce sera une émission autour des idées et des aventures qui étaient liées à Fermat et à Wiles.
Tout à fait. Et donc, c'est dans ce cadre que nous allons parler de la conjecture de Fermat, qui n'est plus une conjecture. Et ça, on va le voir au cours de l'émission. Pourquoi ? Et pour commencer, qui est Pierre de Fermat ? À part un lycée à Toulouse, mais qui est Pierre de Fermat ?
Alors déjà, Pierre de Fermat, c'est un pur produit du terroir, hein, c'est un Occitan. Il est né à Beaumont-de-Lomagne, et c'est quelqu'un qui a vécu au XVIIe siècle, et c'était un magistrat, professionnellement, et en fait, c'est ce qu'on appelle, enfin à l'époque, on appelle ça un polymathe, bon maintenant on dirait plutôt un haut potentiel intellectuel, je pense. C'est quelqu'un qui s'intéressait à tout, à plein de choses, et qui était excellent dans tout ce à quoi il s'intéressait. Et en particulier, il s'intéressait aux mathématiques. Donc il a été magistrat à Castres et à Toulouse, mais surtout, il faisait énormément d'autres choses, et en particulier des mathématiques. Alors, tu veux que je te dise pourquoi le théorème de Fermat ?
Oui, pourquoi pas ? Oui, vas-y.
Donc en fait, ce qui l'intéressait en mathématiques, c'était tout ce qui va toucher, on va dire, la théorie des nombres entiers. Il s'intéressait aux équations diophantiennes, donc du nom de Diophante, qui est un mathématicien grec, qui sont des équations. Donc les équations, hein, c'est des égalités, et on cherche les nombres qui vont vérifier ces égalités, mais il travaille qu'avec des nombres entiers. Et donc dans ce cadre-là, il a démontré pas mal de choses, donc il y a plusieurs théorèmes qui portent son nom. Et il a énoncé une conjecture.
D'accord, alors tu disais égalité. Est-ce que tu peux me donner un exemple
d'équation
simple?
Alors, l'équation la plus simple, c'est par exemple x égale 0.
D'accord.
Donc, par quoi il faut remplacer x pour que l'égalité soit vraie? Eh bien, par 0. Voilà, ça, c'est l'équation la plus simple. Et en fait, c'est résoudre une équation, c'est un peu transformer une égalité pour se ramener à des choses aussi simples. Bon, je donne une équation un peu plus compliquée. Par exemple, 2x plus 1 égale 0. Par quoi je dois remplacer x pour que cette égalité soit vraie?
D'accord, et c'est la base. Alors, je pensais à une autre égalité assez connue qui a permis à Fermat peut-être de tenter de généraliser cette égalité, le théorème de Pythagore.
Complètement.
Qui fait partie des connus, mais c'est vrai que 2x plus 1 égale 0 est plus simple à appréhender que de dire x carré
égale... Dans 2x plus 1 égale 0, il y a une seule inconnue,
voilà.
X. Alors,
À degré 1, en plus.
Il voilà, n'y
a pas besoin de trop de technicité pour pouvoir
voilà,
la résoudre.
Voilà, exactement. C'est quelque chose qu'on apprend à faire au collège. Après, les équations un peu plus compliquées qu'on apprend à faire maintenant en première, c'est les équations du second degré. Mmh. 2x au carré plus 3x plus 1 égale 0, par exemple. Alors, l'équation dont tu parles, qui est liée au théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, c'est aussi... je pense que c'est le truc que tout le monde, dont tout le monde se rappelle en maths, quand même, parce que, en général, ça frappe. Donc, en fait, le théorème de Pythagore, il donne une relation entre les longueurs des côtés d'un triangle rectangle pour que ce soit, justement, un triangle rectangle. Et on peut écrire ça de manière schématique sous la forme x au carré plus y au carré égale z au carré. Donc, tu vois, il y a trois inconnues.
Oui.
Et quand on a un ensemble de nombres entiers, alors on s'intéresse plutôt aux nombres entiers dans la théorie de Diophant, qui va vérifier cette équation, comme par exemple 3, 4, 5, c'est le triplé, donc justement on va appeler ça un triplé pythagoricien.
D'accord.
Parce qu'on a 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Donc Fermat, il est parti de ça, il s'est intéressé au triplé pythagoricien, on va dire, puis effectivement il a essayé de généraliser.
D'accord.
Très mathématique.
Et c'était ça la conjecture de dire que pour tout nombre entier naturel supérieur à 3, l'équation devrait peut-être potentiellement se réaliser.
Alors justement, non.
Non.
C'est le contraire, c'est qu'il n'y a pas de solution.
Il n'y a aucune solution, d'accord.
En fait, il a cherché. Donc pour x au carré plus y au carré égale z au carré, il y a une infinité de solutions.
Tous les triangles rectangles?
Oui, mais enfin oui, si tu veux, mais il y a, en tout cas, il y a une infinité de tous les triangles rectangles. Mais attention, on s'intéresse aussi, on veut que les côtés soient des nombres entiers, ce qui rajoute une complexité.
Légèrement, oui.
Mais déjà, comme il y a 3, 4, 5, il suffit que tu multiplies 3, 4 et 5 par le même nombre et tu as une infinité de triplés pythagoriciens, mais bon, tu en as plein d'autres. Et en fait, il a cherché la même chose, mais de degré 3. X3 plus Y3 égale Z3, et puis de degré 4, etc. Et il s'est aperçu. Enfin, il a imaginé que, en fait, c'était pas possible.
Mais alors, pas possible, je vais peut-être dire une énormité.
C'est pas grave, tout est bienvenu.
Voilà, il n'y a pas de question saugrenue, c'est ce qu'on m'a dit il n'y a pas très longtemps, et c'est ce que je dis à tous mes étudiants, pour zéro.
C'est
supérieur à zéro.
Oui, parce qu'effectivement, zéro, ça va marcher.
De toute façon, ça marche pratiquement.
C'est une très bonne
question.
C'est une très bonne remarque. Effectivement, x égale y égale z égale zéro, ça marche.
D'accord.
Mais on cherche des solutions non nulles.
D'accord, pour tout nombre supérieur à 1,
voilà.
Ça n'existe pas.
Il
n'y
a pas de nombre
pas.
Entier non nul qui vont vérifier x3 plus y3 égale z3 ou x4 plus y4 égale z4, et ce pour toutes les puissances.
D'accord.
Voilà. Et donc c'est un théorème compliqué parce que c'était une conjecture à l'époque compliquée parce que ça n'existe pas. C'est quand même plus difficile de montrer qu'un truc n'existe pas qu'un truc existe.
Oui, il existe avec quelques exceptions. Là, il faut... Ouais, j'imagine même pas comment est-ce que la solution a pu être trouvée. Alors peut-être avec des... théories, des théorèmes, des techniques que le commun des mortels ne pourrait pas comprendre.
Je crois, ouais.
Avant de... Oui, une petite anecdote d'une personne assez connue, qui est plutôt pas mauvaise, qui a dit qu'avant de pouvoir résoudre le problème, c'est Cédric Villani, avant de pouvoir résoudre le problème, il nous faudrait peut-être faire 3-4 ans d'études préliminaires avant de commencer à pouvoir appréhender la problématique. Donc oui, si Cédric Villani a 3-4 ans, nous faudrait 3-4 siècles, ce qui n'est pas possible. Tu as cité un mot, conjecture. Qu'est-ce qu'une conjecture ?
Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde mathématique, on s'intéresse à la vérité. C'est-à-dire, on cherche à savoir si des propositions sont vraies ou fausses.
D'accord.
Alors, en gros, c'est ça, faire des maths. Les propositions étant des phrases mathématiques qui sont construites avec certaines règles, etc. Par exemple, une proposition mathématique, c'est... il n'existe pas de solution à l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n pour n supérieur ou égal à 3. De solution entière non nulle.
D'accord.
Ça, c'est une phrase mathématique. Donc, la question qui se pose aux mathématiciens, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Voilà. Donc, on peut écrire des conjectures, je peux t'en citer. Il y en a une très célèbre qui s'appelle La conjecture de Goldbach et qui est très célèbre en plus d'une. Et deuxièmement, il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Le théorème de Marguerite. Je ne l'ai pas encore vu, hein, j'y vais dimanche et j'ai hâte. Mais je sais que la jeune femme qui est la protagoniste du film, elle travaille sur cette conjecture. Et c'est une conjecture encore plus simple que le théorème de Fermat, c'est tout nombre entier supérieur à 3 peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Voilà, ça c'est une phrase mathématique.
D'accord.
Et en fait, donc une conjecture, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vrai ou faux.
Parce que l'objectif, c'est de prouver ça pour tous les nombres, tout les nombres...
Ou tous les nombres entiers, oui. Donc, si tu veux, une conjecture, c'est une phrase mathématique.
Oui.
On ne sait pas si elle est vraie ou fausse. Mais quand on dit une conjecture, c'est qu'on a de bonnes raisons de penser qu'elle est vraie. Voilà.
D'accord.
Donc, on disait la conjecture de Fermat parce que...
On imaginait que c'était possible, que ce qu'il avait énoncé était possible.
Parce que Fermat, lui, avait dit... Donc, je peux peut-être parler de l'anecdote, c'est
le
moment.
Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Voilà. Donc, en fait, Fermat, qui comme vous l'avez compris tout à l'heure, a été un amateur... Bon, à l'époque, cela dit, je crois qu'il n'y avait que des mathématiciens amateurs. Hein, ça n'existait pas le concept de mathématicien professionnel. Mais en tout cas, lui, il passait pas tout son temps à faire des mathématiques. Bon, bref, il était en train de lire un livre de maths et il a écrit dans la marge « Ah, il n'existe pas de solution, enfin, etc. J'ai trouvé une démonstration formidable, mais j'ai pas la place de l'écrire dans la marge. » Alors. Je pense, enfin moi mon avis, c'est qu'il a écrit, c'est une note pour lui-même. Il a écrit ça parce qu'il était en train de penser à ça. Et puis, sur ces entrefaites, il s'est passé quelques années, il est décédé, et son fils a, en fouillant dans les papiers de son père, retrouvé ce livre avec cette note dans la marge. Et là, il a livré ça au monde mathématique. Et donc, Fermat, comme c'était quand même une pointure, les gens se sont plutôt dit, si lui, il a trouvé la démonstration, c'est que ça doit être vrai, il doit y en avoir, etc. Et à partir de là, l'aventure a commencé pendant 350 ans. Tous les mathématiciens, enfin, pas tous, mais beaucoup de mathématiciens, professionnels et amateurs, ont cherché cette fameuse démonstration. En réfléchissant, en particulier pour préparer l'émission, je me dis que ça se trouve, Fermat, après avoir écrit cette note, il a dû prendre un temps pour mettre sa démonstration au propre. Parce que c'est ça la difficulté des mathématiques, c'est que parfois les idées, tu les as dans ta tête, elles sont assez claires, ça s'exprime assez bien, tu vois le truc, puis quand tu veux le démontrer...
C'est plus compliqué.
Là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, du coup, il faut tout un langage, etc. Et donc, je pense qu'il a dû chercher quand même, hein, il s'est sûrement pas arrêté là, et il a dû sûrement... voir que ça marchait pas, ou en tout cas que sa démonstration elle marchait pas, etc. Parce que on a aucune autre trace. Et je doute qu'il se soit arrêté là. Voilà. Donc peut-être que lui-même savait déjà, ou en tout cas savait qu'il avait pas réussi à démontrer. Mais comme je pense que c'était une note pour lui-même, il en a pas spécialement parlé.
Tout à fait. Ouais, ça a été.
Mais bon, du coup, ça a été le début de l'aventure. Parce
voilà,
que.
C'est ça.
Donc ça, c'est ça, une conjecture. C'est une phrase, on sait pas si elle est vraie ou fausse. Et jusqu'à ce qu'on démontre qu'elle est vraie ou fausse, c'est une conjecture. Après, quand on a démontré qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse, ça devient un théorème.
D'accord.
Donc là, maintenant, depuis 1994, ce n'est plus la conjecture de Fermat, c'est le théorème de Fermat-Wiles, puisque, à tout seigneur, tout honneur, c'est Wiles qui a démontré ce théorème.
D'accord. Alors, on va en reparler juste après. Je propose une petite pause, parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu aimais différents arts, la musique, écrire, dessiner, et... Je te propose de nous parler juste après, et on va écouter le premier extrait, d'un projet qui s'appelle le projet 42, que tu as lancé, et pour lequel tu as imaginé certaines créations. Je laisse les auditeurs écouter.
Égal 1.
Alors, d'où vient projet alors, 42 bon. Et pourquoi 42?
Donc, ça fait beaucoup de questions. Donc, en fait, une de mes recherches personnelles, c'est comment utiliser les mathématiques dans l'art et en particulier le langage mathématique. Donc, j'ai fait pas mal de peintures, on va dire, où je mets en scène une formule mathématique, sans forcément chercher à la comprendre. Puis, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi d'écouter, de dire cette formule, mais un peu comme comme une formule magique ou une formule incantatoire, enfin, voilà, pas forcément quelque chose qu'on cherche à comprendre. Donc, là, vous avez entendu l'audio, mais en fait, c'est un projet vidéo, donc, que je fais en collaboration avec Arnaud, qui a un groupe qui s'appelle Open Chords, qui est donc musicien. Et donc, en fait, on fait des vidéos où il prend les peintures que j'ai fait sur, par exemple, là, c'était la formule 0,99999, etc., égale 1. Et moi, je dis la formule et il fait un montage vidéo avec où ça tourne, etc. C'est assez joli. Et il fait la musique. Voilà. Donc ça, c'est notre projet, c'est de faire 42 formules sur ce format. Pourquoi 42? 42. Vous connaissez peut-être l'école 42 de Xavier Niel. Bon, ce n'est pas pour ça que j'ai choisi 42, mais c'est pour la même raison que Xavier Niel a choisi 42. C'est dans l'univers geek des années je ne sais plus combien, il y a un livre de science-fiction un peu particulier qui a eu un certain succès. Et en particulier dans ce livre, il y a un ordinateur à qui on pose la question fondamentale du sens de la vie, de la mort et du reste, et qui réfléchit pendant des milliards et des milliards d'années, et il donne sa réponse, et sa réponse c'est 42. Voilà. Donc ça, c'est le genre de chose qui me fait rire et qui fait beaucoup rire tous les geeks, etc. Bon, moi, je me considère pas comme geek, mais bon, dans le milieu mathématique, ça fait rire. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à ça. Après, il faut savoir que même si je suis mathématicienne, j'ai eu, comme tout le monde, du mal à apprendre mes tables de multiplication, et en particulier 6 x 7. Et maintenant, je sais, hein, 6 x 7, 42. Et du coup, voilà, je suis très fière de moi d'avoir réussi à apprendre 6 x 7, 42. Donc voilà, c'est aussi un petit clin d'œil à ça.
Ouais, la table des 7 est quand même la plus dure à comprendre. Oui, il n'y a aucun moyen mnémotechnique sur la table de 7. Alors les autres, on peut toujours trouver.
Voilà, il y a des trucs, il y a toute une zone où c'est assez difficile dans les tables, là, vers 6,
8 x 7 aussi,
etc.
Pareil.
Voilà, exactement. Donc voilà pourquoi 42. Et là, actuellement, du coup, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube.
D'accord, alors on mettra les liens sur le site, dans le commentaire, comme ça vous aurez les liens sur les différents...
Sinon, il suffit de taper mon nom, Agnès Rigny.
D'accord, sur YouTube, et c'est bon. Parfait. Alors, je vous propose d'en écouter un deuxième, et puis ensuite, on va revenir sur notre ami Andrew Wiles, qui a atteint peut-être l'Everest des mathématiques. Alors, revenons maintenant à notre ami Pierre de Fermat, mais surtout à son collègue du théorème, Andrew Wiles. Alors, comment lui est venue l'idée de se dire, tiens, un jour, peut-être, je vais essayer de réussir à démontrer quelque chose que personne n'a réussi à démontrer? Ça lui est venu quand?
Alors ça, bon, moi, je ne connais pas personnellement Andrew Wiles, hein, donc je ne peux pas exactement répondre à ta question, mais j'ai lu pas mal de choses sur lui, j'ai vu des vidéos... ce que je sais, c'est que c'est un petit garçon qui a entendu parler, j'imagine qu'il aimait déjà les mathématiques, il a entendu parler de cette conjecture, et à un âge très très jeune, hein, à 10 ans ou 11 ans, il s'est dit « moi je le démontrerai ». Pourquoi il s'est dit ça? Je sais pas, chacun se met des petits défis. Et lui, alors ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, t'as 10 ans, tu dis « Ah, je veux démontrer cette conjecture, plan d'action. » Bon, bah déjà, il faut que j'apprenne les maths, il faut que je devienne mathématicien, il faut que j'ai du temps pour chercher. Donc, le meilleur moyen, c'est devenir chercheur en maths, parce que c'est vrai qu'après, quand t'es chercheur en maths, t'as pas mal de temps, tu peux organiser ton temps comme tu veux. Mais enfin, bon, tout ça, ça demande quand même un certain temps, etc. Et donc après, ce que je sais, c'est qu'il s'est mis à travailler sur cette conjecture secrètement. Et en fait, pendant à peu près 7 ans, il a travaillé quasiment tout seul. Donc, je ne sais plus dans quelle université il était. Sans doute à...
C'était pas Princeton.
Oui, voilà, sans doute à Princeton. Enfin, là, voilà.
Parce que j'ai lu dans un super livre que...
Enfin, je ne sais pas s'il a cherché à ce moment-là. Je sais qu'il en a parlé dans cette université. Enfin, en tout cas, bon, c'était Andrew Wiles. Dans tous les cas, c'était un mathématicien déjà top niveau. Donc, il était certainement dans cette université qui est un peu une sorte de paradis pour les chercheurs où, en gros, tu n'as aucune contrainte et tu réfléchis à ce que tu veux.
D'accord.
Bon, lui, donc, il s'est mis à réfléchir secrètement sur ce thème. Alors, pas tout à fait secrètement. Il avait un interlocuteur parce que quand tu réfléchis, en particulier en maths, c'est important de pouvoir exposer tes idées, ça t'aide à les construire, à les valider, etc. Enfin, en tout cas, ça a pris 7 ans. Et puis après, quand ça a été à peu près au point, il s'est rendu compte que ça allait être énorme. Et donc là, avec son comparse, ils ont dit qu'ils allaient faire un cours, une sorte de conférence en trois thèmes. Alors, je crois que là, ça commençait déjà à sortir que, ouais, il y avait des rumeurs, ça allait être un gros truc et tout ça. Et donc, en fait, lui, ce qu'il a fait, alors là, ça devient un tout petit peu technique, il a pas du tout démontré le théorème de Fermat en utilisant des moyens de l'époque de Fermat, en tout cas. Il a démontré que le théorème de Fermat était équivalent ou impliqué par un autre théorème.
D'accord.
Enfin, par une autre conjecture. Alors, à l'époque, c'était une autre conjecture d'un autre domaine des maths. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment faire des ponts entre les différents domaines des maths. Donc un domaine qui est plutôt de la géométrie, on va dire, que de l'arithmétique. Et en fait, il a démontré cette conjecture de cet autre domaine. Et comme il a démontré cette conjecture, bah, la conséquence, c'est que le théorème de Fermat, que la conjecture de Fermat était démontrée. Et donc voilà, quand il a sorti cette phrase à la fin, non mais ça a été une révolution quoi. Je veux dire, ça fait 350 ans que tout le monde l'attendait. C'était le truc énorme. Moi, j'aurais vraiment aimé être là pour vivre ça quoi. C'est vraiment, ça devait être incroyable. Alors,
est-ce qu'il n'y a pas eu deux trois petites jalousies ou
non ben,
ou alors des remarques en disant il y a une erreur ou
parce que... Alors après, le problème c'est que bon, parce que là il avait en gros donné les grandes lignes de sa démonstration, mais sa démonstration elle fait plus de 100 pages quoi.
D'accord, il a montré les principaux thèmes, il a un peu expliqué
les idées, oui. Mais c'est ça ce que je t'expliquais d'ailleurs sur la difficulté en maths, oui. C'est-à-dire tu peux donner un peu les gros thèmes, mais il y a des moments il va pas te dire comment il passe de l'étape A à l'étape B. Par contre, il avait tout écrit, et donc effectivement, une démonstration, il faut qu'elle soit validée par d'autres gens. Alors, si Cédric Villani dit qu'il lui faut 4 ans pour comprendre la démonstration, t'imagines bien qu'à l'époque, sur Terre, il n'y avait pas énormément de mathématiciens qui étaient capables de lire ça. Enfin, toujours est-il que, bon, il y en avait. Donc, il y a des mathématiciens qui ont commencé à lire la preuve pour chercher si c'était... si elle était correcte, quoi. Et effectivement, alors, c'est pas qu'il y avait une erreur, c'est qu'il y avait un relais qui manquait. Voilà, il y avait un truc qui...
Entre deux parties de la démonstration, voilà, il manquait quelque chose.
Il va dire, on a ça, et puis pourquoi ? Enfin bon, il y avait quelque chose qui manquait, qui faisait que du coup, la démonstration n'était pas valable. Donc c'est là où il y a eu un... Alors là, j'imagine, mais il a dû stresser, mais ça a dû être horrible, quoi.
Bah, ça faisait combien d'années ? 7 ans qu'il travaillait dessus.
7 ans de ta vie à bosser sur un truc et tout. Genre là, j'imagine la montée d'adrénaline, ça a dû être quelque chose d'incroyable. Bon, alors, il s'est remis à bosser. Alors là... Il était un petit peu peut-être dans l'urgence parce que du coup, comme toutes ces idées étaient sorties, là maintenant il y a des tas d'autres mathématiciens qui bossaient sur le thème.
Chose,
voilà. Et ça aurait été un peu quand même désagréable que quelqu'un montre ce relais avant lui parce que du coup il se serait attribué les mérites de la démonstration. Enfin, en tout cas, ils auraient partagé. Je te passe les détails. En tout cas, il a réussi à démontrer ce qui manquait. Et donc voilà, en 1994. Andrew Wiles a démontré ce fameux théorème. Alors, effectivement, je parlais de l'Everest des mathématiques parce que moi, je me suis dit, mais... Donc, il devait avoir une quarantaine d'années, je crois, un truc comme ça. Peut-être un peu plus parce qu'il n'a pas eu la médaille Fields. Donc, je pense que... Parce que la médaille Fields, c'est la plus grande distinction qu'on peut donner à un mathématicien.
Un mathématicien, mais qui doit...
Mais il faut avoir moins de 40 ans.
D'accord.
Donc après, il a eu d'autres distinctions. De toute façon, il a eu tout ce qu'il fallait. Mais bon, il devait avoir une quarantaine d'années. Moi, je me suis dit, mais tu fais quoi quand à 40 ans, t'as réalisé ton rêve d'enfant et que c'est un truc aussi énorme ? Ça, c'est vraiment une question bon, à laquelle j'ai pas de réponse. Bah, qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que ça, c'était il y a 20 ans quasiment. Bon, bah, il a continué son boulot de chercheur, mais bon, j'imagine que rien peut être à cette hauteur-là. Et ce qui m'avait frappé, j'avais vu une vidéo tournée par un journaliste qui s'appelle Singh, je crois. Singh, S-I-N-G-H. Il a aussi écrit un livre là-dessus. C'était super, enfin, je vous le recommande, c'est très très intéressant. Et moi, j'avais vu sur cette vidéo que Andrew Wiles, il pleurait, mais pas de joie. Il pleurait, enfin, j'ai pas interprété ça comme ça. Il pleurait de désarroi, quoi. Oui. Bah, maintenant que j'ai atteint ça, je fais quoi ? Enfin, c'était mon interprétation à vérifier. Enfin, voilà, en tout cas, ça, par exemple, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais quand t'as fait ça ?
Ça me paraît très compliqué d'y répondre. Il faudrait l'avoir fait au moins. Peut-être une fois dans sa vie, avoir atteint un niveau qui était ce qu'on voulait faire. Voilà, mon objectif, c'est d'être ça. J'y suis arrivé. J'y suis arrivé à 85 ans, ça va. J'y suis arrivé à 40 ans, ouais. L'adrénaline doit être.
En tout cas, il faut peut-être qu'il a rebondi et qu'il s'est retrouvé d'autres objectifs. Hein. Je sais pas. Il a peut-être qu'il s'est enfin occupé de sa femme et de ses enfants. Parce que bon, en l'occurrence, petite anecdote, pendant ces 7 années, il a eu quand même 2 enfants. Donc il a dû passer 2-3 minutes à faire autre chose que chercher la conjecture de Fermat. Mais enfin, il était tout le temps dans son bureau. Donc ça devait quand même pas être super facile de vivre avec lui. Donc peut-être qu'il s'est trouvé d'autres objectifs. Oui. Hein. De toute façon, quand je te disais que moi, je m'intéresse au sens de la vie, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui va faire que tu
peux rebondir, que tu peux continuer,
que voilà, que tu te lèves le matin, etc. Donc, la question, elle se pose pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour lui, moi, je trouve cette aventure incroyable, quoi. T'as 10 ans, tu te dis, ouais, je vais démontrer le théorème de Fermat. Voilà, c'est un truc énorme. Bah, t'y arrives. Ah, c'est incroyable, quoi.
Mais, est-ce que toi, tu n'as pas atteint un jour ton Everest et tu t'es redemandé peut-être que... Est-ce que ça t'est arrivé ?
Bon alors, non, c'est pas exactement...
Alors peut-être pas l'Everest,
pas à ce niveau-là. Et puis moi, je suis quelqu'un qui a 3 millions de projets, donc ça va, j'en ai de quoi faire plusieurs vies, donc j'aurais jamais atteint mon Everest. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné dans ma carrière professionnelle, quand j'étais prof de prépa, j'étais prof de prépa au lycée Pierre de Fermat, du coup, de Toulouse, qui est un très très grand lycée. J'avais un super poste, j'étais prof en PC étoile, donc c'est pas le top niveau, mais c'est quand même vraiment très très fort. Enfin, c'est dans le milieu des mathématiciens, c'est quand même, des profs de prépa, pardon, c'est quand même joli. Et voilà quoi, moi j'avais 40 ans, en gros, je savais qu'après je pourrais pas trop évoluer professionnellement. Je me voyais pas être prof, faire ça encore 20 ans quoi. Et donc oui, effectivement, alors c'est pas à ce niveau-là hein, bien sûr, mais oui, j'ai dû me réinventer ma vie à ce moment-là, ouais, tout à fait.
D'accord. Alors après la première formule dans le projet 0,99999 et qui est égale peut-être à 1.
Ah, peut-être, elle est égale à 1, ça c'est sûr, Eric, ce n'est pas une conjecture.
Je ne suis pas mathématicien, mais c'est vrai que la démonstration est assez sympathique à regarder. Wallis, alors je me suis un peu trompé, donc c'est un mathématicien. On va écouter, je vous propose d'écouter Fibonacci.
Et ça ne s'arrête jamais.
nous avons vu que la conjecture de Fermat, c'est fini. Est-ce qu'il en existe d'autres qui sont encore aujourd'hui, bah, comme une conjecture non démontrée, ou proche de la démonstration, ou qui...
Alors, il existe encore aujourd'hui plein de conjectures. Alors, bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que la vie du chercheur en maths, c'est de démontrer des conjectures, même si c'est des petites propriétés, enfin petites, qui ne sont pas aussi célèbres que celles de Fermat. Mais il existe, on va parler vraiment de conjectures quand ça résiste. Et donc là, aujourd'hui, ben oui, il y a plein de conjectures qui résistent, mais il y en a trois qui sont très célèbres, qui sont le problème numéro 8 des problèmes de Hilbert. Hilbert, c'était un mathématicien, une grosse pointure du début du XXe siècle, qui a fait tout un congrès et qui a réuni tous les mathématiciens et a dit, voilà, il y a 23, je crois, problèmes sur lesquels il faut bosser, et, etc. Il les a énumérés. Et le problème numéro 8, c'est il comprend trois conjectures. Alors la première conjecture, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la conjecture de Goldbach, qui est le thème de recherche de la protagoniste du film Théorème de Marguerite, et qui est aussi le thème central d'un livre que je vous recommande aussi, qui est... C'est pas un livre pour mathématiciens, attention, je précise, c'est juste ce thème-là, mais c'est plus une aventure humaine, qui s'appelle Oncle Petros et la conjecture de Goldbach. Et si on pourra parler d'indécidabilité tout à l'heure à ce propos de ce livre.
D'accord.
Donc cette conjecture, j'ai dit tout à l'heure, tout nombre entier supérieur ou égal à 3 peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Par exemple, si on prend 3, ça s'écrit 1 plus 2. 1 et 2 sont des nombres premiers. Si on prend 4, ça s'écrit 2 plus 2. Si on prend 5, ça s'écrit 2 plus 3. Bon, etc. Alors, c'est une conjecture parce que on a de bonnes chances de penser que c'est vrai, puisque avec les moyens informatiques maintenant, on a pu démontrer que c'était vrai jusqu'à un nombre énorme d'entiers. Mais comme tu le sais, il y a une infinité d'entiers, donc oui. C'est pas la bonne façon de... On ne pourra jamais démontrer la conjecture par ce biais-là. L'autre conjecture qui est assez simple à comprendre, je pense, si on connaît le concept de nombre premier, c'est celle des nombres premiers jumeaux. C'est-à-dire, par exemple, 3 et 5, c'est des nombres premiers jumeaux, puisque...
Ils
se suivent de deux en deux. Forcément, les nombres pairs ne peuvent pas être premiers, enfin, sauf deux. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y en a une infinité ou pas ?
Ils se suivent avec seulement deux d'écart, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, avec seulement deux d'écart.
D'accord.
Comme 3 et 5, 5 et 7, 11 et 13, etc. Est-ce qu'il y en a une infinité ou pas ? Donc, voilà, ça reste une conjecture, même si, pareil, on a de bonnes raisons de penser que c'est vrai. Après, il y a une conjecture, alors là, celle-là, elle est un peu plus technique, qui s'appelle l'hypothèse de Riemann. Qui date de 1859, et en fait, c'est une fonction qui s'appelle la fonction zeta, qui s'exprime... D'ailleurs, ça sera une des formules du projet 42, c'est le cas particulier de n égale 2, hein, la somme de n égale 1 à l'infini de 1 sur n carré égale pi carré sur 6. C'est pas la peine de comprendre, vous pouvez vous laisser porter par la formule. Bon, donc si tu, au lieu de prendre 1 sur n carré, tu prends 1 sur n puissance n'importe quoi, et que ce n'importe quoi est un nombre complexe, ben il est possible que toute cette grosse somme s'annule. On appelle ça un zéro. Et donc la conjecture de Riemann, c'est tous les zéros complexes ont comme partie réelle 1/2. Bon, excusez-moi, hein, j'espère que j'ai pas perdu les auditeurs. Mais c'est une conjecture qui est très très importante en fait, et pareil, on a de bonnes chances, de bonnes raisons de penser que c'est vrai, et que cette conjecture-là en particulier, si on arrive à la démontrer, elle améliorera vraiment, elle ouvrira vraiment de nouveaux domaines des maths. Donc ça, c'est trois conjectures célèbres. Je pense on avait fait une émission sur Ramanujan, tous les deux. Bon, Ramanujan, qui est un mathématicien que j'affectionne particulièrement, en fait, sa vie, ça a été écrire des conjectures.
C'est-à-dire tout ce qu'il avait, qui lui arrivait la nuit, qu'il compilait, n'était que des conjectures, parce que lui, il n'écrivait que la formule,
il ne la démontrait pas.
Ouais.
Voilà, en fait, Ramanujan, pendant la nuit, la déesse Tamagiri arrivait et lui délivrait son message, et qui se traduisait par des formules magnifiques. Il en a écrit quatre cahiers. Et donc, chaque formule, en fait, tant qu'elle n'était pas démontrée, était une conjecture. Alors,
d'accord.
Par exemple, là, typiquement, on ne sait pas d'où ça vient. Hein. Ça vient de... Alors, c'était quelqu'un qui calculait beaucoup, qui faisait beaucoup, qui réfléchissait aux maths. Mais d'où viennent les idées ? C'est là où les maths, ça rejoint complètement la création artistique. Parce qu'en fait, d'où vient l'inspiration ? Ça reste quelque chose de mystérieux.
Pourquoi un jour, Pierre de Fermat s'est dit, Je vais me poser cette question. Ça peut paraître... Alors peut-être qu'il y avait un déroulé intellectuel avant, mais pourquoi se poser cette question ? Je sais pas, il y a peut-être pas de réponse, mais c'est
vrai
que
c'est assez... Déjà, il y a une partie de la réponse qui nous échappe, mais en tout cas, typiquement, là, pour Pierre de Fermat, je pense que sa démarche, c'était de la généralisation. Les mathématiciens, ils aiment bien, par exemple, tel problème particulier de Pythagore, x carré plus y carré égale z carré, et un mathématicien, sa première question, ça va être, bon, bah, si on met, au lieu de mètre carré, on met cube,
ah, si
etc.
Oui, cube, ça fonctionne.
Donc, il y a un peu ce côté, je m'intéresse à un petit problème, mais si je change des données, ça donne quoi ? Tu vois, donc il y a,
ça peut
en fait,
ça, oui.
C'est un peu, c'est connexe à tes préoccupations. Tu t'intéresses à un domaine des maths, t'explores, et puis, en gros, les mathématiciens, ils se posent tout le temps des questions. Donc, si tu veux, tiens, ça.
Ils le transforment en équation, et puis ils essayent de le démontrer,
ils essayent de donner un peu une forme, ils cherchent un peu, ils disent, ah, tiens, ça a l'air vrai, ça peut être marrant, ou ça peut être intéressant, et puis voilà, c'est parti.
D'accord. Bon, allez, on va en écouter quatrième, parce que si j'ai bien compris, oui, comme tu le disais, il va y avoir 42 extraits, 42 formules mathématiques mises en images et
formules,
en son.
Ou des fois, c'est des théorèmes aussi.
Des théorèmes, d'accord. Voilà. Alors là, on va partir sur le quatrième, qui s'appelle Colline.
Dimension de cœur de U plus rond de U égale dimension de E. Transposé de S égale S entraîne que S égale transposé de P delta P. Le produit de U égale 1 lambda et F en lambda 1 identité de E égale 0 entraîne que E est la somme directe de U égale 1 lambda du cœur de F en lambda 1 identité de E.
Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé d'un terme, non, de deux termes, qui s'appelait proposition indécidable.
Alors, ah oui.
Là, quand on parle de ça, on dit maths, proposition indécidable, on dit oui, non, mais franchement, c'est pas fait pour moi, je suis pas prêt pour, parce que c'est un petit peu compliqué. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner une définition,
un
exemple ?
Oui, alors, il faut savoir que c'est aussi compliqué pour moi, hein, même si quand même j'ai fait pas mal de maths. Bon, pas au niveau, hein, je suis pas chercheuse, hein, donc pas au niveau des chercheurs, mais bon. Donc oui, c'est compliqué à comprendre. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que la proposition indécidable, c'est un des, dans le livre Oncle Petros et la conjecture de Goldbach, c'est quelque chose qui intervient et qui va jouer un rôle crucial. Bon, je te disais tout à l'heure que le propos des mathématiciens, c'est de savoir si les propositions sont vraies ou fausses.
Oui.
Mais en fait, il y a une catégorie de propositions qui fait que il y a certaines propositions qui sont
ni vraies ni fausses.
Ni vraies ni fausses.
Waouh.
Qui sont indécidables. Et alors le reste toujours cette problématique, si tu es en train de chercher une conjecture, ça se trouve c'est indécidable.
Et donc tu peux chercher toute ta vie mais voilà. Sans savoir que
voilà. Alors il y a une conjecture célèbre qui s'appelle l'hypothèse de Riemann qui est indécidable. Alors quand c'est en fait il faut comprendre que vrai ou faux, c'est pas dans l'absolu. En fait, dans un univers mathématique, tu as des axiomes. Des axiomes, c'est par exemple les axiomes d'Euclide hein, que tout le monde connaît. Enfin,
alors,
pas tout le monde connaît,
non,
mais...
Peut-être pas. Est-ce que tu...
Non, excuse-moi, c'est à peu près... C'est que j'adhère, mais je veux dire, on les connaît sans les connaître. C'est-à-dire, par exemple, tu prends un point, une droite, il passera... une seule droite perpendiculaire qui passera par ce point à cette droite. Enfin, c'est les axiomes.
Oui,
de la géométrie euclidienne, c'est le monde dans lequel on vit, hein, en gros. Donc,
d'accord.
Si tu veux, on sait que
on les
droites
sans,
parallèles
sans
se
savoir
coupent
que ça
pas,
s'appelle,
etc. Voilà, on
les connaît sans savoir que ce sont les axiomes
voilà,
d'Euclide.
Voilà, en fait, on les utilise tous les jours, quoi, oui. Parce qu'on vit dans ce monde-là. Mais, donc, un axiome, c'est des propriétés qu'au départ, on va considérer vraies.
D'accord.
Et alors... Bon,
après, c'est démontré
les...
ou pas ?
Non, c'est pas démontré.
D'accord,
c'est vrai. C'est, si tu veux, c'est décrété. On dit ça, c'est vrai. Et à partir de ces quelques propriétés, avec une règle de déduction, tu vas créer toutes les autres propriétés. Tu vois, donc il y a toujours une base, On ne part pas de rien. L'univers mathématique,
c'est pas possible.
Non, c'est pas possible.
Il y a quelques règles au départ. Sinon.
Donc, si tu veux, dans cet univers où tu as des axiomes au départ, donc là, il y a un mathématicien, un logicien, quelqu'un qui était aussi complètement barré, là, Gödel, qui a démontré que quels que soient les axiomes
que tu prends au départ,
il y aura toujours des propositions indécidables. Alors après, une proposition indécidable, tu peux décider qu'elle est vraie, tu la rajoutes à ta théorie, ça fait un nouvel axiome, si tu veux, et tu construis une certaine théorie mathématique, tu peux décider qu'elle est fausse, tu la rajoutes comme axiome, et ça fait une autre théorie. Donc, c'est ça, une proposition indécidable. Bon, alors, il ne faut pas en déduire que quand on n'arrive pas à faire un exo de maths, c'est un truc indécidable.
Non, ce qui serait bien, c'est que tous les étudiants qui pourraient nous écouter ne disent pas « c'est indécidable ».
Voilà, c'est ça, c'est un peu facile, genre « oh oui, toi, tu as une proposition ». Non, parce qu'après, par ailleurs, il faut quand même démontrer que c'est indécidable. Et ça...
Ça doit être aussi
compliqué.
Alors
là, moi, après, ça me dépasse. Hein.
Ouais, ça doit être aussi compliqué que de démontrer une conjecture.
Voilà. De toute façon, tu as une conjecture, elle peut être du coup vraie, fausse ou indécidable, mais dans tous les cas, il va falloir que tu prouves ce que tu dis.
Voilà.
C'est ça, dans tous les cas, il va falloir trouver.
Et quand on sait que 7 ans de recherche, 100 pages, je pense, d'intelligence pure, de mathématiques pures et de démonstrations incroyables, on va rester sur le fait de se dire que ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit le troisième, mais bon, nous n'allons peut-être pas rentrer dans ce détail.
Voilà.
Cinquième extrait du projet 42, donc il en reste 37 à faire.
Voilà, donc ça nous fait du travail. Comme
d'accord.
Quoi, tu vois, on a toujours des projets.
Toujours des projets qui sont quasiment pas finis.
Alors,
il est finissable.
Du coup.
Voilà, il n'est pas infini, il sera fini. Et donc,
après, tu peux faire 42 au carré, 42 au cube.
Oui,
42
factoriel.
Voilà, 42 factoriel.
Et là, je ne suis même pas sûr qu'on ait le temps de calculer, même si on décide faire 1 fois 2 fois 2. Est-ce que les 37 prochains sont déjà décidés ou alors est-ce que c'est au fur et à mesure?
Non, là j'en ai une vingtaine, je crois.
D'accord.
Qui sont. Alors moi je fais ma partie, j'ai fait les peintures et j'ai enregistré le texte et après c'est à Arnaud de faire les musiques et la vidéo. Donc je crois qu'il y en a une vingtaine qui sont prêtes et
d'accord.
Il faut que je continue à en faire. Voilà.
D'accord, alors là on va écouter le cinquième, accroissement fini.
Le théorème des accroissements finis. Soit f une fonction continue et dérivable sur i, à valeur dans R. Alors, pour tout a et b appartenant à i, tel que a est strictement plus petit que b, il existe c appartenant à l'intervalle ouvert ab, tel que f' de c égale f de b moins f de a sur b moins a. Démonstration. Soit A strictement plus petit que B, appartenant à I. Considérons l'application φ du segment AB dans R, qui à T associe F de T moins F de A, moins F de B moins F de A sur B moins A, facteur de T moins A. On a φ de A égale 0, et φ de B égale 0. Φ est continue et dérivable sur le segment AB, car F l'est. D'après le théorème de Rolle, il existe C appartenant à l'intervalle ouvert AB, tel que φ' de C égale 0. Or, φ' de T égale f' de T moins f de B moins f de A sur B moins A. On a donc f' de C moins f de B moins f de A sur B moins A égale 0, c'est-à-dire f' de C égale f de b moins f de a sur b moins a. C'est QFD.
Alors Agnès, on était tout à l'heure dans les propositions indécidables. Donc là, on est dans un niveau très... Mais il y a d'autres termes. Tu parlais tout à l'heure d'axiome, on parle de théorème, de conjecture. Il y a également les lemmes. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ces différents points? Donc on a vu conjecture, on a vu théorème.
D'accord. Alors, si tu veux, en maths, on va parler d'axiome, de propriété, de lemme, de théorème, de corollaire. C'est à peu près les termes qui sont employés. Donc tout ça, ça concerne des propositions mathématiques qui sont bien formées. Hein. Il y a des règles de proposition, bah, comme en français. Hein. Oui. Il y a des phrases qui... Tu peux dire, par exemple, le soleil est blanc. C'est une proposition, encore que ça peut être vrai, mais le soleil est...
Bleu.
Bleu, bon, par exemple. Bon, voilà, c'est une proposition bien formée, mais qui n'a pas forcément de sens ou qui n'est pas forcément vraie. Donc en maths, c'est pareil. Donc dans les propositions mathématiques, il y en a, donc comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont être considérées comme vraies. On ne les discute pas. C'est des axiomes. Après, il y en a... Donc après, qu'est-ce que c'est la différence entre propriété, lemme, théorème, corollaire ? Tout ça, c'est des propositions qui sont vraies. Mais on va dire qu'un lemme, c'est une proposition qui sert que à démontrer un théorème. C'est-à-dire, tu ne vas pas t'en resservir pour faire d'autres choses. Un théorème, comme le théorème de Pythagore, là, c'est un gros théorème que tu peux utiliser dans plein de contextes.
D'accord. Donc, le lemme, c'est un cas précis.
Le lemme, c'est quelque chose qui va servir à démontrer un théorème. D'accord. Et un théorème, on va dire, ça a plus d'importance. Un corollaire, c'est quelque chose qui est déduit d'un théorème qui est, pareil, qui est assez important. Bon, bah tiens, on a écouté le théorème des accroissements finis, là, oui. Je crois, dans mon projet 42, bon, je précise tout de suite que l'objet, c'est pas d'écouter le texte, enfin, de chercher à comprendre le texte. Mais bon, en tout cas, le théorème des accroissements finis, c'est un corollaire d'un autre théorème qui s'appelle le théorème de Rolle. Donc, c'est-à-dire, on démontre le théorème de Rolle, qui est un théorème qui a de l'importance, et on en déduit le théorème des accroissements finis. Alors, on pourrait dire le corollaire des accroissements finis. Mais comme, du coup, ce corollaire, il a vachement d'importance, on l'appelle
théorème. D'accord.
Voilà, ça va être ça. Propriété, c'est plutôt quelque chose qui est un peu basique, quoi. Ben, je sais pas, tu prends propriété des vecteurs, par exemple. Ben, tu peux les ajouter, les règles de calcul. Tu vois, c'est quelque chose qui va être... c'est un peu comment ça se manipule. D'accord, l'objet mathématique. Oui. Un théorème, c'est quelque chose qui a quand même plus de poids,
de densité.
Voilà. Mais dans tous D'accord. les cas, en fait, c'est... Et puis tout ça, c'est quand même très subjectif.
Oui, chaque terme que tu as expliqué permet de faire quelque chose. Alors, soit c'est pour aller un peu plus haut, et puis
il y a des trucs qui vont être utilisables. Des outils, moi j'appelle ça des outils qui vont être souvent utilisés dans plein de contextes. Bon, on va dire des théorèmes,
oui.
Des outils qui sont juste le truc que tu as fabriqué ad hoc pour démontrer
pour le théorème,
tel truc.
D'accord.
Donc, ça sera un lemme. Le corollaire, bah, c'est quelque chose qui se démonte facilement parce que tu as bossé pour démontrer le gros outil, mais après, le corollaire, il peut. Servir
d'accord. C'est une suite qui peut peut-être être un peu plus utilisable ou...
Voilà, bon, c'est un peu ça les idées. Et les propriétés, c'est juste comment j'utilise mes outils. Quoi. Voilà.
D'accord. Alors, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Pour moi, ça l'est, ça y est, c'est bon. J'ai compris un peu la différence.
Je fais de mon mieux. Hein.
Voilà. Alors, je reviens, je fais un flashback au début de l'émission où tu expliquais que tu aimes bien énormément de thèmes, d'activités. Je crois que mon petit doigt m'a dit... que dernièrement, sur une musique que j'adore, alors franchement quand je l'ai écoutée, j'ai trouvé ça génial, je trouve que c'est reposant, c'est différent, et ça allume certaines parties, notamment de mon cerveau, et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ça serait, je crois, un poème, et que derrière il y a une histoire,
voilà. Donc,
je te laisse
la parole. Moi je fais pas que des maths, loin de là, et j'écris des poèmes, entre autres, j'écris des histoires, j'écris des nouvelles, je dessine, etc. Et là, j'avais écrit un poème qui s'appelle « Mon amour Kintsugi ». Alors, Kintsugi, ça fait référence à une technique japonaise pour réparer les pots cassés, au sens propre, enfin, ou les poteries cassées, ou les objets comme ça que tu recolles. Comme de toute façon, tu vas voir... l'endroit où c'est collé, eh bien en fait ils mettent des fils d'or dessus pour en faire quelque chose de pour finalement mettre en exergue la cassure, mais en faire quelque chose de
joli, de
nouveau,
plus joli,
de joli, enfin et ce que j'aime bien, c'est que enfin à la fois ça nie pas le fait que ça a été cassé. Donc j'avais écrit un poème sur ce thème qui parle d'un amour brisé, on va dire, recollé, et mon ami Emmanuel Amiot, qui est mathématicien et musicien et compositeur, a composé la musique. Et donc, c'est un compositeur très contemporain. Donc, effectivement, il a composé cette musique. Et nous l'avons chacun à notre tour chanté. Donc, voilà, pareil, j'ai fait de mon mieux parce que je ne suis pas du tout chanteuse professionnelle. Mais voilà, c'est ça. Et donc, on a fait cette chanson, on va dire.
D'accord. Alors, je vous propose d'écouter deux polymathes qui arrivent à créer quelque chose qui... Je vous laisse vous faire vos propres avis.
Sur les fêlures d'or, ravivant les blessures, savourant la douleur que je suis seul à percevoir. Mon amour Kintsugi, je te regarde danser gauchement sous le soleil timide. Ton beau visage barré de cicatrices, doré, délicate, un parcours secret.
Donc, à vous de voir, personnellement, j'adore, c'est très original. Et encore, ça m'a encore allumé deux, trois autres parties de mon cerveau. Alors, pour finir cette émission, j'ai devant les yeux Rencontre au pays des maths. Alors, c'est un livre que je n'ai pas eu l'occasion de lire parce que je viens de... Agnès vient de m'en faire cadeau. Mais je pense que ça va être quelque chose qui va être assez génial. Rassurez-vous, il y a très peu de formules, mais je pense que les histoires, et j'en connais notamment une parce que nous avons fait une émission, comme tu l'expliquais tout à l'heure, sur Ramanujan, donc je n'ai pas lu l'article encore, mais j'imagine que je vais retrouver des choses, peut-être même découvrir d'autres choses. D'où te vient cette idée? Alors oui, tu as beaucoup d'idées, tu écris beaucoup, mais pourquoi aujourd'hui?
Alors, Rencontre au pays des maths, c'est un livre, c'est intéressant la genèse d'un livre, ça fait des années que j'y pense en fait. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est surtout les histoires, comme je disais au début, les histoires, les motivations des gens, les anecdotes, au-delà des résultats mathématiques. En fait, je ne suis pas non plus... je préfère comprendre l'histoire d'Andrew Wiles que chercher à comprendre sa démonstration, ça c'est clair. Et donc... Dans la partie de ma vie où j'étais prof de maths, j'ai quand même été souvent confrontée à l'incompréhension des gens. Oui, les maths, c'est abstrait, ça n'a pas de sens, etc., etc. Alors qu'en fait, les mathématiques, c'est fait par des êtres humains. Ça ne vient pas du ciel. C'est des personnes qui sont en chair et en os, qui, à un moment donné, bah, comme Andrew Wiles, il a 10 ans, c'est un petit garçon, hop, il a envie de démontrer ce théorème. C'est pas un truc qui vient, qui est complètement abstrait. Donc moi, j'ai voulu montrer que les maths, c'est pas que c'est pas abstrait, les maths. Peut-être, oui, c'est abstrait, mais c'est fait par des gens concrets. C'est fait par des gens réels. Donc moi, j'ai essayé de raconter des histoires. Donc, c'est un livre patchwork. Bon, globalement, comme tout ce que je fais, c'est patchwork. J'ai voulu interviewer, enfin faire le portrait de gens, entre guillemets, ordinaires, c'est pas ce que je veux dire, mais pas connus en tout cas, pas des mathématiciens connus, mais des gens qui font, qui à un moment ou un autre de leur vie ont eu un rapport avec les maths et de, voilà, de voir en quoi ça les a influencés ou pas, comment ils vivent avec ça. Donc j'ai fait le portrait d'une dizaine de personnes qui D'accord, sont oui. Bon, liées aux maths. J'ai fait aussi je me suis aussi intéressée aux gens qui n'aiment pas les maths. Essayer de comprendre oui. qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, pourquoi ils n'aiment pas les maths, etc. Et d'ailleurs, bon, c'est trop peu pour faire des statistiques, mais sur les 4 personnes que j'ai interrogées, quand même, globalement, à un moment donné, la rencontre, elle ne s'est pas faite par une personne. Enfin, autant... C'est pour ça que c'est vraiment une activité humaine. Ce qui peut vous faire aimer les maths, c'est rencontrer un prof de maths ou rencontrer une personne passionnée par les maths. Ce qui peut vous faire détester les maths, c'est rencontrer une personne qui va vous humilier en maths. Ou voilà, c'est quand même toujours lié aux personnes. En fait, c'est vraiment des gens qui sont derrière. Voilà. Alors, j'ai voulu aussi raconter des histoires de théorèmes, donc un peu comme l'histoire de Wiles. J'ai aussi raconté l'histoire de mathématiciens, pour le coup, célèbres. Et j'ai aussi... bon, moi, j'utilise aussi le langage mathématique... pour écrire des poèmes. Bon, j'écris des poèmes qui n'ont rien à voir, mais j'écris aussi des poèmes liés aux maths. Voilà, j'ai mis des poèmes, j'ai mis des dessins, et voilà, c'était un peu pour montrer une sorte de diversité, que dans le pays des maths, ben, y a plein de choses, plein de gens, plein de personnes, et que voilà, j'en donne un petit aperçu.
Effectivement, alors je vois, ils détestent les mathématiques, et alors on va être dans le stéréotype, il y a 4 personnes interviewées, alors a priori Carrie, ça doit être une jeune femme, il y a 3 femmes, et un oui. homme. Et c'est quelque chose qui est juste incroyable, c'est d'avoir le nombre de personnes qui peuvent nous rétorquer « Ah oui, non, moi je suis une fille, les maths, c'est pas fait pour moi. » C'est vraiment le stéréotype ouais. qui est triste. Et peut-être que ce livre, même pas peut-être, alors je vais pas dire qu'il devrait être remboursé par la Sécu, mais il devrait être mis entre toutes les mains, des livres de, je vais pas dire de vulgarisation, mais qui parlent des maths sans parler de formule mathématique. Et comme tu disais tout à l'heure, une personne peut te faire adorer.
Ouais.
Moi, clairement, mon métier de financier que j'ai fait au début, c'est que simplement parce que j'ai eu un prof qui m'a raconté la finance par des anecdotes.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et là, j'avais les yeux qui étaient écarquillés. Ouais. Alors, c'était dense. On n'était pas nombreux à apprécier. Les gens veulent aller en finance pour faire de l'argent. Moi, c'est juste pour apprendre et puis pour vivre toutes ces anecdotes parce que je trouvais que c'était génial. Et bien, effectivement, un prof qui te donne envie ou un livre qui te donne envie, peut-être, pourrait changer un peu l'idée des maths, sachant que dernièrement, j'ai cru comprendre que le niveau des Français en maths était, on va dire, catastrophique.
Oui, bon, c'est vrai. Mais moi, bon, ce que je pense, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est certainement ça qui manque quand même globalement dans les cours de maths, c'est-à-dire, on te dit théorème de Pythagore, mais tu sais même pas...
À quoi ça sert ?
Non, c'est pas ça.
Non, même pas ?
Tu sais même pas, bon oui, à quoi ça sert peut-être, mais c'est surtout, tu sais même pas qui est Pythagore, pourquoi à un moment donné les gens se sont posés ces questions.
Ah, mais c'est trop long à expliquer tout ça.
Ben,
c'est dommage. Alors,
en fait,
le
problème, si tu veux, c'est que si on réfléchit bien, les résultats mathématiques que tu apprends, en fait, très peu de gens vont s'en servir. Qu'est-ce qui est intéressant dans les mathématiques ? C'est la démarche, c'est peut-être la rigueur, c'est le fait que tu te laisses pas faire, que quand on te dit ça, c'est vrai, tu peux dire bah pourquoi ? Démontre-le. Moi, c'est ça que j'aime dans les mathématiques, c'est vraiment le respect des gens, c'est-à-dire c'est pas la loi du plus fort, non, voilà, c'est ben moi je te dis que ça c'est vrai parce que et j'ai tout un chemin que je peux t'expliquer. C'est l'esprit critique, c'est l'honnêteté intellectuelle, enfin il y a plein de c'est ça que t'apprends en maths, donc on aurait parfaitement le temps d'apprendre, enfin de raconter des anecdotes, d'expliquer pourquoi par exemple les nombres complexes qui sont un truc qui fait souvent peur aux gens,
oui.
qui arrivent jusque là, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais en fait, ça vient pas du ciel. C'est à un moment donné des gens qui avaient un problème, qui se posaient des questions, qui ont inventé un truc et qui, enfin, et puis eux-mêmes, ils étaient un peu, ils étaient mal à l'aise avec leur découverte. Enfin, voilà, c'est les mathématiques, c'est fait par des gens dans un contexte pour répondre à des questions données. C'est pas pof, enfin sauf dans le cas de Ramanujan, oui, ça vient du ciel, mais c'est la seule personne que je connaisse comme ça.
Voilà. Mais clairement, tout ce qu'il a quand même écrit a été démontré.
Oui, après, bon, oui. Mais si tu veux, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Ramanujan,
moi, je pense que dans l'enseignement, on devrait raconter des anecdotes. Ça donnerait du sens. Et ça montrerait que, effectivement, bah, c'est des gens qui s'occupent des mathématiques. Bon, après, il y a quand même beaucoup de personnes qui œuvrent dans ce sens-là. Je suis loin d'être la seule. Qui essayent de... Bah, y a des gens qui font de la très bonne vulgarisation des mathématiques. Y a une association qui s'appelle... Bah, tu parlais des filles, qui s'appelle Femmes et Maths et qui vraiment essayent d'œuvrer pour enlever les stéréotypes. Enfin bon, il y a quand même une grosse réflexion. Il y a aussi, j'y suis pas encore allée, mais je compte y aller au mois de décembre, le musée des mathématiques qui vient d'ouvrir à la Maison Poincaré et qui met en avant des gens. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Sur Toulouse, il y a l'association qui fait le festival des mathématiques qui s'appelle Maths en scène. Les maths en scène, il y a à Beaumont-de-Lomagne, il y a le musée Fermat. Enfin, il y a quand même plein de gens qui essayent de montrer une autre vision des mathématiques. Donc moi, je participe à ma façon. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les gens qui font des maths, au-delà, et les anecdotes, au-delà des résultats mathématiques, mais il y a d'autres approches. Voilà. Et j'espère que tout ça, effectivement, contribuera à déconstruire un certain nombre de stéréotypes.
Stéréotypes qui sont quand même bien ancrés et qui... et sortir un peu du... Car scolaire, il faut accepter de se dire, tiens, dans mes loisirs, je vais faire... autre chose que des maths, ou essayer de comprendre différemment.
Voilà. Et c'est très dommageable parce que, par ailleurs, par rapport à tous les défis qui attendent les êtres humains, défis climatiques, etc., on a besoin de maths. Je veux dire, on a besoin de maths. On a besoin de gens qui... Parce que les maths, c'est le langage dans lequel est écrit la science. Et donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer si on n'est pas capable de faire des maths ?
Alors, pour pouvoir faire des maths, moi, j'ai la solution. il vous suffit d'aller chez votre libraire préféré. Alors, je crois qu'à Ombre Blanche, le livre est présent, mais j'imagine que
chez d'autres...
En tout
cas, il y était jeudi dernier. Bon, j'espère surtout... Il faut y aller à Ombre Blanche et leur dire comment vous n'avez pas...
Voilà, vous commandez-en quelques-uns. Peut-être, j'espère surtout qu'il n'y en a plus maintenant. Mais demandez-leur de commander Rencontre au Pays des Maths d'Agnès Rignier, avec qui nous venons de passer une heure pour parler de Fermat et, comme on s'était prévu au début, d'autres choses. Voyage au Pays des Maths.
Rencontre
au Pays des Maths, mais là nous venons de faire un voyage encore au Pays des Maths avec énormément de choses, de la musique, des poèmes, des dessins, énormément de choses. Merci beaucoup Agnès pour cette
heure. Merci beaucoup Eric, j'espère que j'ai été assez claire quand même.
Ah oui. Et bon courage pour ce livre et pour les autres projets, notamment le projet 42 que je vais suivre tout particulièrement.
Voilà, c'est ça qui va m'occuper maintenant. Merci beaucoup, vraiment.
À très bientôt. C'était La Tectonique du Savoir, en compagnie d'Agnès Rigny et de son livre Rencontre au Pays des Maths. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est aux éditions EDP Sciences. Ce fut un réel plaisir de flâner dans le monde merveilleux des mathématiques avec Agnès. À la réalisation, et pour la première fois, Léo, génial. Merci beaucoup, bravo et merci pour ton travail. Si vous avez pris l'émission en cours ou si vous souhaitez écouter à nouveau cette dernière ou une autre émission proposée par la radio Esprit Occitanie, je vous propose de la retrouver dans la 13 hétéroclite bibliothèque de podcasts sur le site de la radio www.espritoccitanie.fr ou sur les plateformes de téléchargement d'applications ou sur les applications Android et iPhone. Esprit Occitanie. Donc n'hésitez pas à poster vos commentaires sur la page de l'émission. Nous mettrons bien entendu les liens pour les différentes musiques que nous avons entendues aujourd'hui. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel intermède tectonique.